Compte à rebours. C'est parti, le générique continue. Ah, j'aime bien ce générique qui donne le début de cette émission qui raconte des histoires. Je trouve des contes, des nouvelles, des blagues, des longues et des courtes. Aujourd'hui, eh bien, tout simplement, Voltaire. Eh bien oui, Voltaire est quand même un fameux conteur. En tout cas, il en a écrit un certain nombre et on verra un peu ce qu'on y trouve. Mais avant de partir avec Voltaire, avec Zadig, hein, non pas Zadig et Voltaire, ce qui est autre chose, avec Zadig de Voltaire, et le bon Brahmin aussi, une bonne petite histoire qui se passe en Inde. Eh bien, avant tout ça, quelques poèmes. Ryokan, vous connaissez? Ah. Et il a un certain âge, hein. Il a vécu entre 1758 et 1831. C'est une des figures majeures du Zen au Japon, donc c'est un japonais, Ryokan. C'est vers la fin de l'ère Edo, vous devez vous rappeler, hein. Le Japon, à cette époque-là, étouffe sous le poids d'une bureaucratie shogunale qui n'épargne pas les institutions monastiques. Le moine Ryokan rejette les conventions de son temps pour revenir à l'essentiel. Le dénuement et la contemplation. Installé dans une modeste hutte au toit de chaume au pied du mont Kugami, il vit d'aumône, ne dispensant aucun enseignement, si ce n'est celui bien plus profond de sa manière d'être, qui incarne sympathie et compassion. Ses poèmes en chinois classique et ses haïkus, ainsi que ses calligraphies, l'imposent comme l'un des plus fulgurants non-penseurs du zen. Voici ce qu'il disait lui-même. « Qui dit que mes poèmes sont des poèmes ? Mes poèmes ne sont pas des poèmes. Si vous comprenez que mes poèmes ne sont pas des poèmes, alors nous pourrons parler de poésie. » Pour mendier ma nourriture, je me rends en ville. En chemin, je rencontre un vieillard. Une vieille connaissance. Il me demande « Maître, que faites-vous donc à demeurer là-haut, sur le pic, dans les nuages blancs ?» Je lui demande « Que faites-vous donc à vieillir dans ce monde de poussière rouge ?» Nous sommes pour nous répondre, mais restons tous deux muets. La cloche de la cinquième veille vient briser mon rêve. Aujourd'hui, mendiant ma nourriture, je suis surpris par une averse. Je m'abrite momentanément dans une vieille chapelle. J'en ris, juste une gourde et un bol. Ma vie libre est à l'image de cette bâtisse délabrée. Fou et obstiné, qu'en cesse serais-je donc dans la solitude et la pauvreté? Ainsi passe ma vie, au soleil couchant, sur le sentier du village reculé, avec mon bol toujours vide, je rentre. Je ne me rappelle pas depuis combien d'années je vis ici. La mer immense s'est transformée en champ de mûrier. Les gens que je croise aujourd'hui ne me connaissent pas. Ils me regardent juste comme un mendiant sur le chemin. Depuis que j'ai quitté le temple où j'ai été formé par mes gardes, je suis devenu une vieille bourrique. Belle flûte pour accompagner les poèmes de Ryokan. Mais tiens, j'en dirai quelques-uns la prochaine fois. Ryokan, R-Y-O-K-A-N. A-N, Moine errant et poète, ça c'est aux éditions Albin Michel, s'il y en a qui sont intéressés par ces textes. Et maintenant, Voltaire, on change pas tant que ça d'époque, hein, mais de continent, oui, puisque Voltaire est de chez nous, et c'est un conteur, c'est pour ça qu'il a sa place dans cette émission. D'ailleurs, je crois que j'avais déjà conté quelques contes de Voltaire. Quoi de plus naturel n'était-il pas, par son tempérament d'écrivain, prédestiné au genre du conte philosophique ? L'idée, chez lui, prend forme, couleur, mouvement, spontanément. Elle s'incarne en une figure dotée d'une étincelle de vie. Il faut pourtant résister à la fausse évidence d'une connaissance classée. Force est de constater que Voltaire n'a découvert le conte que tardivement. À 45 ans, lui si précoce, c'est en 1739 seulement qu'il adresse à Frédéric de Prusse le premier conte qu'il ait écrit, Le voyage du baron de Gangan, archétype de Micromégas, dont le manuscrit ne nous est pas parvenu. Mais c'est vrai qu'après, il a fait plutôt des productions théâtrales, des tragédies comme Oedipe, Irène, des pièces aujourd'hui toutes injouables, ou peu s'en faut. Cependant, il reste vivant, voire actuel, par ses contes, dont il parlait avec un certain dédain, comme de bagatelles et de fadaises. Et voilà. Et pourquoi y a-t-il quelque chose de particulier dans Voltaire conteur, parce que les contes existent de la nuit des temps? Eh bien, voici ce que dit la préface de ce livre, Voltaire, romans et contes. Il explique que le conte voltairien naît d'une perspective plongeante sur l'homme suggérée par la philosophie newtonienne. Tiens, vous m'en direz tant. Au cours des années 1730 et 1740, épris de l'univers gravitationnel si grandiose en sa simplicité, Voltaire aime parcourir en imagination le cosmos. Son valet Longchamp rapporte comment, par une nuit de grand froid en rase campagne, attendant du secours à la suite d'un accident de sa voiture, il contemplait, soulevé d'enthousiasme poétique, les étoiles brillant de toutes parts. Il voguait en esprit dans l'immensité. Ainsi fera Zadig, dirigeant sa route sur les astres, s'élançant jusque dans l'infini et contemplant détaché de ses sens l'ordre infini de l'univers. Retrouvons donc Zadig au moment où il va sur l'île de Serendip. Il ne fut pas longtemps dans l'île de Serendip sans y être regardé comme un homme extraordinaire. Il devint l'arbitre de tous les différends entre les négociants, l'ami des sages, le conseil du petit nombre de gens qui prennent conseil. Et bien sûr, le roi voulut le voir et l'entendre. Et le roi connut bientôt tout ce que valait Zadig. Il eut confiance en sa sagesse et en son ami. La familiarité et l'estime du roi fit trembler Zadig. Il était nuit et jour pénétré du malheur que lui avaient attiré les bontés de Moabdar. « Je plais au roi, disait-il, ne serais-je pas perdu ?» Cependant, il ne pouvait se dérober aux caresses de sa majesté, car il faut l'avouer que Nabuzan, roi de Serendib, fils de Nasunab, fils de Nabassun, fils de Sanbusna, était un des meilleurs princes d'Asie, et que, quand on lui parlait, il était difficile de ne pas l'aimer. Ce bon prince était toujours loué, trompé aussi, et volé. C'était à qui pillerait ses trésors? Le receveur général de l'île de Serendib donnait toujours cet exemple, fidèlement suivi par les autres. Le roi le savait. Il avait changé de trésorier plusieurs fois, mais il n'avait pas pu changer la mode établie de partager les revenus du roi en deux moitiés inégales, dont la plus petite revenait toujours à sa majesté et la plus grosse aux administrateurs. Le roi Nabussan confia sa peine au sage Zadig. « Vous qui savez tant de belles choses, ne seriez-vous point le moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole pas ?»« Assurément, répondit Zadig, je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. » Le roi, charmé, lui demanda, en l'embrassant, comment il fallait s'y prendre. « Il n'y a dit Zadig, qu'à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier. Et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus honnête homme. Vous vous moquez, dit le roi. Voilà une plaisante façon de choisir un receveur de mes finances. Quoi, vous prétendez que celui qui fera le mieux un entrechat sera le financier le plus intègre et le plus habile ? Je ne vous réponds pas qu'il sera le plus habile, repartit Zadig, mais je vous assure que ce sera indubitablement le plus honnête homme. Zadig parlait avec tant de confiance que le roi crut qu'il avait quelques secrets surnaturels pour connaître les financiers. Je n'aime pas le surnaturel, dit Zadig. Les gens et les livres à prodiges m'ont toujours déplu. Si votre majesté veut me laisser faire l'épreuve que je lui propose, elle sera bien convaincue que mon secret est la chose la plus simple et la plus aisée. Nabussan, roi de Serendib, fut bien plus étonné d'entendre que ce secret était simple que si on le lui avait donné pour un miracle. « Or bien, dit-il, faites comme vous l'entendez. »« Laissez-moi faire, dit Zadig, vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. » Le jour même, il fit publier, au nom du roi, que tous ceux qui prétendaient à l'emploi de haut receveur des deniers de sa gracieuse majesté Nabussan, fils de Natsunap, eussent à se rendre en habit de soie légère, le premier de la lune du crocodile dans l'antichambre du roi. Ils s'y rendirent au nombre de 64. On avait fait venir des violons dans un salon voisin. Tout était prévu, préparé pour le bal, mais la porte de ce salon était fermée et il fallait pour y entrer passer par une petite galerie assez obscure. Un huissier vint chercher et introduire chaque candidat l'un après l'autre, par ce passage dans lequel on le laissait seul quelques minutes. Le roi, qui avait le mot, avait étalé tous ses trésors dans cette galerie. Lorsque tous les prétendants furent arrivés dans le salon, Sa Majesté ordonna que l'on les fît danser. Jamais on ne dansa plus pesamment et avec moins de grâce. Ils avaient tous la tête baissée, les reins courbés, les mains collées à leur côté. « Quel fripon !» disait tout bas Zadig. Un seul d'entre eux formait des pas avec agilité, la tête haute, le regard assuré, les bras étendus, le corps droit, le jarret ferme. « Ah, l'honnête homme, le brave homme !» disait Zadig. Le roi embrassa ce bon danseur, le déclara trésorier, et tous les autres furent punis et taxés avec la plus grande justice du monde, car chacun, dans le temps qu'il avait été dans la galerie, avait rempli ses poches et pouvait à peine marcher. Le roi fut fâché pour la nature humaine que de ses 64 danseurs, il y eut 63 filous. La galerie obscure fut appelée le corridor de la tentation. Histoire d'un bon brahmine. Je rencontrai dans mes voyages un vieux brahmine, homme fort sage, plein d'esprit et très savant. De plus, il était riche et partant, il n'en était que plus sage encore, car ne manquant de rien, il n'avait besoin de tromper personne. Sa famille était très bien gouvernée par trois belles femmes qui s'étudiaient à lui plaire. Et quand il ne s'amusait pas avec ces femmes, il s'occupait à philosopher. Près de sa maison, qui était belle, ornée et accompagnée de jardins charmants, demeurait une vieille indienne bigote, imbécile et assez pauvre. Le brahmin me dit un jour, je voudrais n'être jamais né. Je lui demandai pourquoi. Il me répondit, j'étudie depuis 40 ans. Ce sont 40 années de perdu. J'enseigne les autres et j'ignore tout. Cet état porte dans mon âme tant d'humiliation et de dégoût que la vie m'est insupportable. Je suis né, je vis dans le temps et je ne sais pas ce que c'est que le temps. Je me trouve dans un point entre deux éternités, comme disent nos sages, et je n'ai nulle idée de l'éternité. Je suis composé de matière, je pense, je n'ai jamais pu m'instruire de ce qui produit la pensée. J'ignore si mon entendement est en moi une simple faculté comme celle de marcher, de digérer, et si je pense avec ma tête comme je prends avec mes mains. Non seulement le principe de ma pensée m'est inconnu, mais le principe de mes mouvements m'est également caché. Je ne sais pourquoi j'existe. Cependant, on me fait chaque jour des questions sur tous ces points. Il faut répondre. Je n'ai rien de bon à dire. Je parle beaucoup et je demeure confus et honteux de moi-même après avoir parlé. C'est bien pis quand on me demande si Brahma a été produit par Vishnu ou s'ils sont tous deux éternels. Dieu m'est témoin que je n'en sais pas un mot. Il y a, apparaît-il, bien des réponses. « Ah, mon révérend père, me dit-on, apprenez-nous comment le mal inonde toute la terre. » Je suis aussi en peine que ceux qui me font cette question. Je leur dis quelquefois que tout est le mieux du monde. Mais ceux qui ont été ruinés et mutilés à la guerre n'en croient rien, ni moi non plus. Je me retire chez moi, accablé de ma curiosité et de mon ignorance. Je lis nos anciens livres et ils redoublent mes ténèbres. Je parle à mes compagnons, les uns me répondent qu'il faut jouir de la vie et se moquer des hommes, les autres croient savoir quelque chose et se perdent dans des idées extravagantes. Tout augmente le sentiment douloureux que j'éprouve. Je suis prêt quelquefois de tomber dans le désespoir quand je songe qu'après toutes mes recherches, je ne sais ni d'où je viens, ni ce que je suis, ni où j'irai, ni ce que je deviendrai. L'état de ce bon brahmin me fit une vraie peine. Personne n'était plus raisonnable ni de meilleure foi que lui. Je conçus que plus il avait de lumière dans son entendement et de sensibilité dans son cœur, plus il était malheureux. Je vis le même jour la vieille femme qui demeurait dans son voisinage. Je lui demandai si elle avait été jamais affligée de ne pas savoir comment son âme était faite. Elle ne comprit seulement pas ma question. Elle n'avait jamais réfléchi un seul moment de sa vie sur un seul des points qui tourmentaient le brahmine. Elle croyait aux métamorphoses de Vishnu de tout son cœur, et pourvu qu'elle pût avoir quelquefois de l'eau du Gange pour se laver, elle se croyait la plus heureuse des femmes. Frappé du bonheur de cette pauvre créature, je revins à mon philosophe et je lui dis « N'êtes-vous pas honteux d'être malheureux quand, dans le temps, à votre porte, il y a un vieil automate qui ne pense à rien et qui vit content ?»« Vous avez raison, me répondit-il. » Je me suis dit 100 fois que je serais heureux si j'étais aussi sot que ma voisine. Et cependant, je crois que je ne voudrais pas d'un tel bonheur. Cette réponse de mon brahmine me fit une plus grande impression que tout le reste. Je m'examinais moi-même et je vis qu'en effet, je n'aurais pas voulu être heureux à condition d'être imbécile. Je proposai la chose à des philosophes et ils furent de mon avis. Il y a pourtant, disais-je, une furieuse contradiction dans cette façon de penser, car en fait, de quoi s'agit-il ? D'être heureux. Qu'importe d'avoir de l'esprit ou d'être sot ? Il y a bien plus. Ceux qui sont contents de leur être sont bien sûrs d'être contents. Ceux qui raisonnent ne sont pas si sûrs de bien raisonner. Il est donc clair, disais-je, qu'il faudrait choisir de n'avoir pas le sens commun pour peu que ce sens commun contribue à notre mal-être. Tout le monde fut de mon avis. Et cependant, je ne trouvais personne qui voulût accepter le marché de devenir imbécile pour devenir content. De là, je conclus que si nous faisons cas du bonheur, nous faisons encore plus de cas de la raison. Mais après y avoir réfléchi, il paraît que de préférer la raison à la félicité, c'est être très insensé. Comment donc cette contradiction peut-elle s'expliquer ? Comme toutes les autres, il y a de quoi là parler beaucoup. Thank you. Compte à rebours, c'est fini pour aujourd'hui. On dit au revoir à Voltaire, mais seulement au revoir puisque j'ai encore le crocheteur borgne à vous raconter. Je le ferai prochainement, c'est une belle histoire assez longue qui se passe à Bagdad. Et puis voilà, je vous dis donc simplement à la semaine prochaine. C'était Marco, compte à rebours. Ciao.